Et ce matin, on va partager plusieurs textes.
On va commencer
par Matthieu 28,
au verset 19.
Jésus dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Dans ce texte, Christ donne ses dernières instructions
à ses
disciples et il leur dit de faire des nations
des
disciples,
non
pas des convertis. C'est un problème que nous avons beaucoup parmi pas mal de gens qui fréquentent les églises. Bon, certains, nous le savons, ils viennent, ils sortent, etc., etc., ils naissent jamais de nouveau. D'autres naissent de nouveau, mais ils sont donc nouveaux convertis. Et être nouveau converti, ce n'est pas quelque chose qui plaît réellement au Seigneur. C'est vrai, on est sauvé, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas l'objectif final. L'objectif final, c'est que chacun d'entre nous, nous devenions ce que la Bible appelle disciples. Et c'est ce mot-là que je veux étudier ce matin avec vous, pour vous montrer là où Dieu veut vous emmener. Parce que nous devons tendre à devenir des disciples, non pas des gens qui fréquentons simplement une église, rester bébé spirituel, et puis quand les tentations viennent, ça y est, on ne grandit pas dans le Seigneur, on est emporté à tout vent de doctrine, quelqu'un vient vous raconte des choses, il dit voilà, Dieu m'a dit ça et ça pour toi, on est incapable de discerner s'il vient de Dieu, s'il ne vient pas de Dieu. Non, Dieu veut qu'on devienne des disciples. Et Jésus va nous expliquer dans les évangiles ce que c'est qu'un disciple. Moi je suis des fois attristé d'entendre des gens qui sont déjà depuis 3 ans, 4 ans au Seigneur, qui ont fait des cours pour nouveaux convertis, qui étaient fidèles à l'église, qui étaient brûlants dans le Seigneur, et puis on entend, tiens, celui-ci il est tombé dans le péché, tiens, celui-ci il est devenu ça, ça fait mal. Et sachez une chose, en tant que pasteur et avec l'équipe qui travaille avec nous sous notre leadership, eh bien, cette équipe essaye de faire ce qu'elle peut pour vous démarrer dans le Seigneur. Mais il y a un moment où chacun doit prendre ses responsabilités. C'est le sevrage spirituel. Au début, c'est sûr et c'est normal. Quand quelqu'un reçoit Christ comme son sauveur personnel, eh bien, c'est clair, on est obligé de le nourrir. Comme une maman est obligée de donner du lait à son bébé. Si vous nourrissez pas un bébé, il va mourir. Et ça, c'est normal. Un bébé ne peut pas s'occuper de lui-même. Il en est incapable. Il n'a pas conscience suffisamment du monde qui l'entoure. Il est ouvert à tous les dangers. Il est facilement détournable. Avec des fausses doctrines, avec des fausses prophéties, avec tout ce que vous voulez. Et c'est pour ça que l'Église doit créer l'atmosphère pour que n'importe qui donne sa vie à Christ puisse grandir, puisse recevoir la nourriture appropriée, pour qu'au bout d'un moment il y ait une certaine maturité. Et cette maturité doit arriver à un point où la personne se prend en charge. Si au bout de 3 ans ou 4 ans dans le Seigneur, vous avez encore besoin que quelqu'un vienne vous vivre visiter pour savoir comment vous allez, ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup grandi. C'est vous-même au bout de 3 ans ou
4
ans qui devriez régulièrement amener d'autres seigneurs.
Hein.
Et commencer à devenir des petits papas et des petits mamans spirituels. Tout en restant bien encadré, bien sûr. Donc c'est important de comprendre certains principes de la parole. Luc chapitre 14. À partir du verset 25. Regardons ensemble, à partir du verset 26. De grandes foules faisaient route avec Jésus, il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever, et que tous ceux qui le verront ne se moqueront disent, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas été capable d'achever. Ou quel roi, s'il part pour s'engager dans une guerre contre un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il a le pouvoir avec 10 000 hommes de marcher à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000. Tandis que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient fade, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Il est inutile pour la terre, pour le fumier, on le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On va lire le verset 27 et on va lire aussi le verset 33 en kirundi, s'il vous plaît.
Reka dusome 27 mu kirundi, Luka 14 hamwe na 33. Utikorera umusaraba wiwe ngo ankurikire, ntashobora kuba umwigishwa wanje. 33 niko biri umuntu wese muri mwebwe adahe ibyo afise byose ntashobora kuba umwigishwa wanje.
Donc ici c'est très clair.
Hano urabona ko hari ibintu bitomoye.
Des foules qui suivaient Jésus, il y en avait d'immense.
Abantu benshi bakurikira Yesu kandi bari benshi cyane.
Et aujourd'hui dans ce monde c'est la même chose.
Uyu munsi no mwisi nuko bimeze.
Des foules qui suivent Jésus entre guillemets, c'est-à-dire qui viennent dans les églises, il y en a beaucoup.
Usanga abantu benshi bakurikira Yesu kandi ni benshi, mashengero ni benshi.
Nous sommes dans une région du monde où les gens viennent facilement à l'église.
Muri kano karere ki c'est une
très bonne chose,
mais
Dieu veut pas seulement des gens qui viennent à
l'église. Ce
que Dieu veut, c'est des disciples,
des
gens engagés.
Vous
voyez, le Seigneur dit lui-même,
quiconque
ne porte pas sa croix ne me suit pas ne peut être mon disciple.
Tous
ceux qui ne va pas haïr dans le sens de préférer, ça aurait été une meilleure traduction, préférer son père, sa mère, etc. C'est-à-dire que, en fait, pour être le disciple de
Christ,
il va y avoir un chemin. Et ce chemin n'est pas un chemin facile. Recevoir le salut, c'est la chose la plus simple du monde. Être sauvé, c'est très simple. C'est croire que Jésus est Dieu le Fils.
Qu'il
est mort pour nos péchés.
Qu'il
est ressuscité le troisième jour. C'est donner sa vie en disant, Seigneur, pardon pour mes péchés.
Ayant
cette conviction dans nos cœurs.
Et demander
à Jésus de nous sauver. Et gloire à Dieu, il le fait. Jésus est fantastique, il est merveilleux. Il le fait. Et ça, c'est très très simple. Mais être un disciple de Christ, ça va te coûter. Si tu veux être un disciple, et rappelons-nous que c'est ce à quoi Dieu nous appelle, cela nous coûte. Si tu veux être un disciple, ça va te coûter. Ça va te coûter sérieusement. Si tu penses que tu peux vivre une vie extraordinaire avec Dieu, surnaturelle avec Dieu, sans que ça te coûte, eh bien tu fais une erreur. Tu fais une erreur totale. Ça te coûtera un certain nombre de choses. Jésus dit, dans ta famille,
il
y a des gens qui se moqueront de toi. Il y aura des persécutions. Il y a des textes qui nous le montrent. Il y aura tout un tas d'oppositions. Il y a un prix. Il y a un prix si tu veux devenir un disciple. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Le mot disciple dans le grec implique pas mal de choses. Il implique d'abord de connaître la doctrine d'un maître.
Bisigura yuko ubwa mbere hariho kumenya inyigisho ya shobuja canke yugutwara.
Il implique de connaître la doctrine d'un maître.
Bishiramwo kuba umwigishwa bisigura yuko utezwa kumenya inyigisho ya yukuganza.
Et nous avons un maître qui est Christ.
Natwe twafite utuganza ni Kristo.
Nous connaissons sa parole au travers de la Bible. Vous êtes dans une église où on vous donne un tas d'enseignements. Maintenant, le disciple aussi, ça implique une chose. C'est être dans la présence du maître. Et que cette présence vous influence.
Vous influence
à tel point que vous pensez comme le maître, vous marchez comme le maître, vous faites ce que le maître vous dit de faire. Vous refusez de faire ce qu'il ne vous dit pas faire. Vous lui ressemblez petit à petit.
Parce
que vous êtes influencé. Influencé dans sa présence. Parce que sa présence, vous l'aimez. Vous voulez marcher dans sa parole.
Mais
vous voulez aussi être influencé par sa présence. Et aujourd'hui, celui qui nous rend Jésus. Proche. C'est bien sûr le Saint-Esprit. C'est bien sûr quand l'onction du Saint-Esprit est sur quelqu'un et sur l'Église d'une manière générale. C'est là où il y a une influence de sa présence. Où tu remplis de sa paix, de sa joie, de sa puissance. De sa guérison. De sa gloire d'une manière générale. Là, il y a une influence. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps de connaître la doctrine du maître, d'être dans sa présence, de comprendre sa présence. Parce que quand nous sommes fermés à sa présence, c'est nous-mêmes qui sommes fermés à sa présence. C'est pas lui qui ne veut pas répandre sa présence et nous influencer. Parce que sa volonté, c'est qu'on soit un disciple. Sa volonté, c'est qu'on devienne un disciple. Et c'est alors que tu te mets devant lui et que tu dis: Seigneur, tu vois là dans mon caractère, il y a ça qui ne va pas. Dans mon attitude, il y a ça qui ne va pas. Et tu commences à te repentir de certaines choses. Parce que quand tu es dans la présence du maître, si c'est vraiment lui qui te touche, alors tu te vois tel que tu es. Et à ce moment-là, tu commences à voir les choses qui ne vont pas dans ta vie. Et tu commences à dire: Seigneur, non, je ne c'était ça dans ma vie.
Et si je
oh, Seigneur, pardon, parce que j'ai une mauvaise attitude. Seigneur, j'ai vu quelque chose que tu étais en train de faire et je me suis rebellé dans mon cœur. Vous savez, Isabelle en parlait tout à l'heure. Je vous en avais déjà aussi parlé bien des fois avant. Il y a des gens qui s'opposent à ce que le Saint-Esprit veut faire. Vous savez, quand le Saint-Esprit descend avec puissance, ça choque des gens.
Mais
il y a des gens qui sont choqués. J'ai récupéré 4 pages sur ce qui s'est passé en 1900, au début du 20e siècle. Sur donc des témoignages de ce qui s'est passé pour le réveil de
Pentecôte.
C'était très étonnant. La présence de Dieu était là. Et franchement, c'est très intéressant de voir comment le Saint-Esprit était là dans cet endroit avec un homme qui s'appelait William Seymour, qui était un homme très simple. Et franchement, le Saint-Esprit travaillait dans les cœurs. Et ils avaient un certain nombre de manifestations puissantes du Saint-Esprit. Les vies des gens étaient changées. Et c'était très puissant. Mais au milieu de ça, bien sûr, il y avait des gens qui étaient là et qui s'opposaient directement. Parce que quand il y a de grandes choses qui se passent, il y a des gens qui remettent en doute. Et quand vous remettez en doute quelque chose qui vient de Dieu, comme on disait tout à l'heure, c'est dangereux. C'est très dangereux. Être un disciple,
c'est
connaître la présence de Dieu. Être un disciple, c'est voir le caractère de Christ qui se forge en nous, spirituellement,
devant
les problèmes de la vie, devant différentes choses auxquelles nous sommes confrontés.
Quand
parfois des gens vous veulent du mal,
ils
cherchent à vous nuire, et c'est alors que vous pouvez savoir comment faire. Être un disciple, c'est passer du temps dans sa parole, avoir la mentalité divine, passer du temps en disant non, comment Dieu pense dans cette situation. C'est comme ça que moi je dois penser, ce n'est pas autrement. Et nous devons chercher à tendre à être ses disciples. Quiconque qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Il y a beaucoup de gens qui se sont posé des questions là-dessus. Jusqu'à tel point qu'il y a même des religieux qui prennent tous les ans des morceaux de bois, ils font une croix et ils portent la croix. Nous savons que ce n'est pas scripturaire. Porter sa croix, ça veut dire quoi? Entre autres, ça veut dire quand tu as une façon de penser sur quelque chose. Même si tu penses avoir raison.
Regardez
ce que la parole de Dieu dit.
Et
renoncer complètement au moi je pense que. Il y a des chrétiens, quand vous leur enseignez la parole de Dieu, on a l'impression que vous tirez une balle contre un mur et vous la recevez en pleine figure, vous qui l'avez lancée. Et quand vous parlez avec eux, des fois ils vous partagent certains problèmes, ils vous disent moi je pense que. Tu ne peux pas être disciple si tu dis moi je pense que. Sur les choses que Dieu a déterminées dans sa parole, quand tu commences à dire oui mais moi je pense que, ça veut simplement dire une chose, que tu remets en question la parole de Dieu. Porter sa croix, c'est accepter aussi d'être complètement mort à sa propre volonté. Ça, je crois que c'est la chose la plus difficile, surtout pour les hommes, pour les messieurs. Parce qu'en fait, nous avons tendance à avoir une volonté qui est forte. Et en fait, il y a des gens, parfois, ils ont réalisé des choses par eux-mêmes, mais c'est bien de réaliser des choses par eux-mêmes. Mais Jésus disait bien une chose. Je ne fais pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Tu veux réussir? Tu veux devenir un disciple? Mets ta volonté au pied du maître. À chaque fois que tu veux prendre une décision, tu mets ta volonté au pied du maître. Tu dis Seigneur, est-ce que ça c'est vraiment selon toi? Selon ce que tu veux pour ma vie. Il y a tellement de gens qui ne font pas ce que Dieu leur demande. Tellement de gens qui s'engagent dans des trucs qui ne sont pas selon le cœur de Dieu. Mais oui, j'ai un appel. Oui, t'as un appel, mais attends que Dieu, ce soit vraiment le temps de Dieu pour toi.
Apprends
à te soumettre complètement. Moi, les meilleurs moments de ma vie spirituelle et de mon ministère, c'est quand ma volonté est morte et que je dis Seigneur, fais ce que tu veux, ce que tu veux. Et quand je prie sincèrement cette prière, parce que ce que je vous dis là, ce n'est pas une méthode, parce que malheureusement il y a des gens qui entendent ce genre d'enseignement et ils commencent simplement à prier avec des méthodes. Ça doit venir d'abord d'une conviction
interne,
que tu apprends, que tu comprends, que tu comprends que faire ta volonté, ça ne fera que des Ismaël. Tu n'auras pas d'Isaac, c'est-à-dire le fils de la promesse. Tu te seras arrangé pour réaliser la promesse au travers d'un autre moyen que Dieu. Et ça, frères et sœurs, c'est important. Je vous dis une chose. Dieu ne montrera pas sa gloire. Nous ne verrons pas un mouvement de l'Esprit puissant qui nous amènera dans le réveil. Si une majorité des gens de cette église ne veulent pas mettre leur volonté sous la volonté de Dieu. Ça, je vous le dis. Vous vivrez des choses dans l'Esprit qui seront temporaires. Vous vivrez un mouvement de l'Esprit. Ça va être glorieux pendant quelques temps. Dans une période. Mais, si vous ne soumettez pas votre volonté, le Saint-Esprit ne viendra plus vous visiter. Et c'est individuel et c'est aussi pour l'Église. Moi, j'ai soif. J'ai soif
de
la gloire
qui est
présente,
extrêmement
présente, frères. J'en ai soif
et
je suis prêt à mettre toute ma volonté devant le Seigneur. Et ça, c'est pas une prière que tu peux faire une fois ou deux comme ça.
En disant,
Seigneur, je mets ma volonté
sous
la tienne, fais ce que tu veux dans ma vie. Ça, ce n'est pas quelque chose que tu vas faire, tu as prié une ou deux fois dans ta vie. Mais c'est à la fois une attitude. Vous savez, la Bible nous dit de prier sans cesse.
Et
il y a des gens qui ont pris ce verset en disant, bon, il faut que je prie pendant toute la journée. Donc ça veut dire que je demande au Seigneur toute la journée des choses. Il se passe n'importe quoi, Seigneur fait ceci, Seigneur fait cela, comme si c'était finalement toi qui commandais le Seigneur. Non,
ce
n'est pas ça que la Bible nous montre. La Bible nous montre d'avoir une attitude ouverte.
Pour
que quand tu fais des choses, que tu aies cette attitude d'être, de porter ta croix, d'être crucifié avec
Christ,
de renoncer à un certain nombre de choses, ta volonté sous la volonté de Dieu, sous la volonté de Dieu. Combien nous voyons de gens qui veulent servir le Seigneur mais qui n'ont pas une volonté soumise. Moi, je suis resté comme ça pendant plus de 10 ans dans ma vie chrétienne. C'était échec sur échec sur échec. Les 10 premières années de ma vie chrétienne, comme je sentais l'appel de Dieu pour le servir, j'aurais fait tout et n'importe quoi, mais avec un zèle charnel, avec la chair. Tu es là, tu veux faire la chose, c'est avec tes propres forces. Je me souviens dans l'église de Pentecôte où on était, je voulais absolument faire quelque chose. En fait, je visais la prédication. C'est normal, j'avais un appel. Évidemment, à chaque fois que le pasteur prêchait, on avait le scanner pour examiner exactement ce qu'il prêchait. Et comme on examinait tout, et comme on avait été élevé, entre guillemets, avec un papa et une maman spirituelle qui avaient un esprit extrêmement critique, à peine sorti de l'église, c'était, oh, le pasteur il a dit ça, et puis dans son sermon, c'était pas tout à fait ça. Moi j'aurais fait mieux. Oui, et toi t'aurais prêché quoi, etc. Et en fait, quand vous êtes élevé avec des gens comme ça, qui ont un esprit critique, comme je le dis souvent, les chats ne font pas des chiens. Hein. Si ceux qui vous ont amené au Seigneur ont un esprit critique constamment, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez apprendre à critiquer tout de suite. Alors, j'avais réussi quand même à faire une chose dans l'église. Ah, il y avait à l'époque un petit magnétophone à cassette. Et je m'étais quand même glissé là-dedans pour servir le Seigneur. Dupliquer les cassettes, c'était mon job. Enregistrer et dupliquer les cassettes. Mais l'objectif, c'était de prendre, je ne dirais pas de prendre la place du pasteur, mais disons, prêcher.
kwari uko atari kumbure gufata ikemeza cy'umukozi w'Imana yari ngaho mugabo kuvuga ubutumwa.
Franchement, pendant 10 ans, je suis resté sur la touche. Je regardais les autres jouer au ballon et moi je restais assis. Les gens qui faisaient des choses pour le Seigneur, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la bonne attitude. Ça, j'étais converti. C'est vrai que j'étais un nouveau converti. Pendant 2 ans, mes parents spirituels racontaient à Isabelle souvent que je ne devais pas être sauvé. Et à chaque fois qu'ils lui téléphonaient, j'essayais d'écouter.
Maintenant,
ça y est, qu'est-ce qu'ils vont encore dire sur moi?
Alors,
c'est pas facile quand vous commencez avec des doutes de la part de vos parents spirituels.
Mais
ça a été une école pour moi. Parce que j'ai appris à dépendre de la parole de Dieu. Et vraiment, au bout de 2 ans, j'ai dit, peu importe ce qu'on peut dire sur moi, parce que je portais peu de fruits du salut. J'étais plutôt intellectuel. Mais en fait, j'essayais de voir comment apprendre des choses de la parole de Dieu. J'étais sauvé, mais converti. Je parlais quelques syllabes en langue, mais converti. Et ça a pris du temps avant que je devienne un disciple du Seigneur. Parce que devenir disciple du Seigneur, ça prend du temps. Et tu dois mourir aux critiques. Tu dois mourir à toutes choses, toutes sortes de choses. Tu dois voir le prix. Ici, Jésus donne 2 paraboles. On a pas le temps de les étudier. Mais il explique la parabole de quelqu'un qui veut construire une maison. Il a acheté sa parcelle, il fait les fondations pour avoir le type de propriété. Et puis si vous passez devant tous les jours, 5, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y a des gens qui font ce commentaire-là. Ah, celui-ci, tiens, il a acheté une parcelle, mais pourtant, il n'a pas fini la maison encore. Oui, parce qu'il n'a pas vu le prix à payer pour son
achat.
Il n'a pas vu le prix à payer. Tu veux devenir un disciple de Christ? Il y a un prix à payer. Tu auras des ennuis dans ta famille. Oui, oui, c'est sûr. Des ennuis dans la famille, on en a tous eu.
Quoi,
t'es avec ces gens-là, ces fanatiques-là, ces gens bizarres? T'es devenu protestant? On pourrait vous en raconter, hein. La famille te dira toujours des choses. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux payer le prix pour suivre le Seigneur?
Ou
tu veux juste suivre le Seigneur de loin? Si tu veux suivre le Seigneur de loin, et que tu pries, Seigneur fais ceci dans ma vie, Seigneur fais ceci dans ma vie,
j'ai
une mauvaise nouvelle pour toi, il ne le fera pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la foi. Pourquoi? Parce que tu ne développes pas ta relation avec
Dieu.
Dieu ne veut pas des convertis, il veut des disciples. Dieu veut des gens engagés qui sont prêts à aller jusqu'au bout. Quel que soit le vent, ils ne bougent pas. Ils restent stables. Ils restent fermes. Ils sont prêts à payer le prix. Regardez ce que Jésus subissait. Par exemple, dans Matthieu 10, versets 24 et 25, Jésus parle juste avant de toutes les persécutions. Verset 21 dit, le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans cette ville, fuyez dans une autre. En vérité, je vous le dis, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme viendra. Le disciple, regardez verset 24, n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont surnommé le maître de la maison Belzébul, c'est-à-dire Satan, ni plus ni moins, à combien plus forte raison nommeront-ils ainsi les gens de la maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui qui doivent être révélés, ni de secrets qui doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez donc plutôt celui, c'est-à-dire Dieu, qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. On peut lire versets 24 et 25.
Matayo 10 Umwigishwa ntaruta umwigisha kandi n'umushumba ntaruta shebuja umwigishwa biramubereye kumera nk'umwigisha wiwe n'umushumba nka shebuja hanyuma ngo nye n'urugo ko bamwisebeye Zeburi none abo mu rugo gwiwe ntibazorushiriza kubita batyo.
Donc c'est très clair, le Seigneur nous a prévenus.
Être
disciple ne sera pas facile. Être converti, c'est simple. Tu viens à l'église, tu es engagé avec un petit doigt de pied avec le Seigneur, tu es sauvé, mais bon, dans ta vie, le diable mettra quelques trucs à droite et à gauche, et à chaque fois tu tombes dans le panneau, à chaque fois tu te fais avoir, tu vis dans le compromis, tu t'engages dans des choses importantes dans ta vie,
où
finalement tu as choisi le compromis, tu as choisi les choses diaboliques, tu as choisi le mensonge, tu as choisi la corruption, tu as choisi toutes sortes de choses qui sont fausses, tu marches dans l'hypocrisie, mais tu viens à l'église le dimanche. Et quand il y a un moment en particulier, bon, tu es béni dans une certaine mesure. Mais ça n'amènera pas un réveil dans ta vie. Ça n'amènera pas des situations terribles qui pourront arriver à changer.
Vous
voyez, il y a un bon nombre de personnes, elles ont des gros problèmes dans leur vie. Certains de ces problèmes viennent de leur faute, d'autres pas du tout. Mais je vais vous dire une chose. Quand tu es devant une montagne, tu as plutôt intérêt à être un disciple de
Christ.
Parce que sinon, c'est la montagne qui va t'emporter. Tu as plutôt intérêt à marcher avec tes convictions. Quand
tu
as des problèmes gigantesques de finances, c'est bien d'appeler au secours pour que les autres prient pour toi. Mais c'est toi qui subis les tempêtes. C'est toi qui es éprouvé. C'est toi qui te retrouves dans le feu, dans la tempête. Et si tu n'es pas disciple de Christ, tu ne sauras pas comment faire. Donc la tempête t'emmènera vers des catastrophes. Et là, souvent, le diable ouvre une porte pour que tu te mettes dans le compromis. Et tu prendras cette porte-là parce que tu n'es pas un disciple de Christ.
Et
ce n'est pas ta foi qui peut travailler.
Ce
n'est pas le fruit de ta relation avec Dieu.
Ça
sera le fruit du compromis. Et Dieu ne veut pas une église comme ça. Vous savez, on le dit et on le redira et je le redirai encore et encore. Quand l'Esprit Saint souffle très fort, j'ai bien dit très fort, il y a plein de choses qui se découvrent. Les réelles motivations des cœurs sont découvertes. Il y a certaines personnes qui changent à ce moment-là et d'autres qui s'endurcissent complètement. Et c'est là où il faut être très prudent, frères et sœurs. Vous ne direz pas que vous n'avez pas été prévenu. Je suis témoin entre Dieu et vous. C'est très important de comprendre ces choses. Il y a une histoire sur laquelle on va passer assez rapidement parce que le temps nous fait défaut. C'est l'histoire de Pierre dans Matthieu chapitre 26. Et Pierre, c'était quelqu'un d'impulsif et qui a su se redresser malgré ses erreurs. Vous savez, des erreurs, tout le monde en fait dans sa vie. Même les plus grands serviteurs de Dieu sur la planète aujourd'hui, qu'il y a eu aussi sur la planète, ils ont eu effectivement des erreurs, c'est déjà dit. Alors, des chrétiens qui font des erreurs, il y en a tout le temps.
Igihe cyose uzosanga hari abakristo bakora amakosa.
Maintenant, c'est pas ce qui se passe dans ta vie.
Ariko rero sigikoreka sikiba mu buzima bwawe.
Qui est important.
Gihambaye.
Mais c'est ce que tu fais avec ce qui s'est passé dans ta vie qui est important.
Icyo ukoresha ico cyabaye mu buzima bwawe, iki ingaruka zivamwo, ingano zifatamwe nico gihambaye.
Je répète, ce n'est pas ce qui se passe dans ta vie qui est important.
Ndasubiramwe sikintu kiba mu buzima bwawe gihambaye.
C'est ce que tu fais avec ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans ta vie.
Ariko icyo ukoresha ico cyabaye mu buzima bwawe.
C'est très, très important ce que je vous dis ici.
Avoir
certains événements qui se passent dans notre vie. Parfois nous en sommes responsables. Parfois nous n'en sommes pas responsables. Et la façon dont tu vas réagir à ce qui s'est passé ou ce qui se passe dans ta vie, c'est absolument déterminant.
Pour ta
marche avec le Seigneur. Il y a des gens parfois, ils se retrouvent confrontés à des nouvelles qu'ils apprennent. Par exemple, d'un seul coup, un conjoint ou une conjointe découvre que l'un ou l'autre l'a trompé. Et d'un seul coup, c'est comme si tout un monde s'écroule. On s'aperçoit qu'on était avec quelqu'un dans le business. Et cette personne vous a fait les pires trucs alors que vous aviez une confiance totale en lui.
Bon,
d'autres personnes qui vous trahissent. Toutes sortes de choses qui peuvent se passer. Puis des fois, nous-mêmes, nous nous mettons dans des circonstances où on fait quelques pas et on n'imagine pas la portée que ça va avoir et on se retrouve dans tout un tas de problèmes.
Qu'est-ce
qui se passe ici?
Oh,
le diable en a profité, il a trouvé une porte, etc. Parfois, nous nous engageons dans des choses avec le Seigneur sans en avoir vu la portée que le prix va nous coûter. Et Pierre va être comme ça. Et Jésus va lui donner une superbe leçon après. Et Pierre va se corriger. Ça, ça a été extraordinaire, c'était superbe. C'est dans Matthieu 26. Jésus partage la Sainte-Cène. Et puis au verset 31, il leur dit la chose suivante. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Pierre prit la parole et lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis cette nuit même, avant même que le coq chante, tu me renieras trois fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. Et tous les disciples dirent, nous aussi.
Baje kuririmba kuva ku murongo wa 30 Matayo 26 barasohoka baje ku musozi wa Elayono maze Yesu arababwira ati mwebwe mwese muri iri joro ibyanje bihava bibatsitaza kuko handitswe ngo nzokubita umwungere intama z'umukuku zisanzara ariko ni namara kuzugwa zobitangira imbere kuja igariraya maze Petero aramwishura ati byawe niyo byotsitaza abandi bose cyaho ntawo bizonsitaza. Yesu aramubwira ati ndakubwira ukuri yuko muri iri joro inkoko itarabikasha wahavunye hakana gatatu. Petero aramubwira ati niyo noba nkwiye gupfana nawe sinokwihakana. Nabigishwa bose ati yeye bavuga gucyo nyene.
Verset 69. Cependant, Pierre était assis en dehors de la cour. Une servante s'approcha de lui et lui dit, c'est après l'arrestation de Jésus, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne connais pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers le porche, une autre le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Sous-entendu, je le jure. Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, vraiment, tu es de ces gens-là. Ton langage te fait reconnaître. C'est normal parce qu'il était du nord. Il avait un accent galiléen. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta.
Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Il sortit dehors et il pleura amèrement. Verset
75.
Pierre pleura amèrement. Alors, il s'est passé des petites choses après. Jésus est crucifié. C'est la confusion totale. On parle d'engagement avec Dieu, frères et sœurs. Vous savez, parfois, on fait certaines choses où on est engagé avec Dieu. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on ne mesure pas la conséquence, la portée de notre engagement.
C'est-à-dire
ce que ça va nous coûter. Imaginez si Pierre avait dit « Oui, j'étais avec lui ». Il aurait risqué sa peau. J'ai la conviction que Dieu l'aurait protégé surnaturellement. Parce que Jésus avait déjà prié la prière de Jean 17. Où il avait dit que personne, ce que le Père lui avait donné, personne n'avait été écarté, n'avait été perdu, sauf le fils de la perdition, c'est-à-dire Judas. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que Pierre se retrouve devant cette situation de compromis. Il cède au compromis. Après 3 ans et demi avec le maître, ayant vu tout ce qu'il avait vu, là, il se retrouve devant vraiment un moment de choix. Tu veux être un disciple? Sache une chose. Tu seras placé devant des choix qui vont te coûter. Mais sache que ça paye de faire ce que Dieu nous demande de faire.
Par contre,
ça nous coûte à nous personnellement de faire ce que Dieu nous demande de faire. Pierre était devant un choix terrible. Est-ce qu'il pouvait dire: oui, finalement, je vais dire que j'étais avec le Seigneur Jésus et risquer ma peau? Pierre a refusé de le faire. Et ça a prouvé que son engagement à ce moment-là n'était pas un engagement qui était trop profond. Au chapitre 21 de Jean, il va se passer un événement très particulier. Jésus va rencontrer ses disciples,
hein,
et il y a un très très beau texte,
hein,
à partir du verset 14, où Jésus va avoir une petite discussion avec Pierre. Et c'était la troisième fois, il nous est dit dans ce texte, au verset 14, Jean 21, que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Après qu'ils eurent mangé, il dit à Simon-Pierre: « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tous les autres ?»« Oui, répondit-il. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit: « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit une seconde fois: « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit: « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et il lui dit: « Sois le berger de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois: « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois: « M'aimes-tu ? » Et lui répondit: « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui répondit: « Prends soin de mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu as attaché toi-même ton vêtement et tu es allé où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, un autre te l'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu après avoir ainsi parlé. Il lui dit: « Suis-moi. » Alors, je vais vous donner quelques explications sur ce texte. Quand Jésus voit Pierre ici, c'est la troisième fois. La troisième fois où ils se rencontrent. Ils s'étaient rencontrés juste après la résurrection. Ensuite, ils vont se rencontrer une semaine après la résurrection, dans Jean 20-22. Où ils vont naître de nouveau. Et la troisième fois, là, Jésus va en profiter, entre guillemets, pour mettre quelques petites choses au point. Rappelez-vous ce texte
wibuke kino gice
nous avons lu tout à l'heure
wibuke cya gice twatangiye gusoma
impulsif
petro yari umuntu avuga ibintu gucenye nakora ibintu gucenye
que y aurait un moment difficile
yes aramubwira ati wowe uzogira ibihe bigoye
Pierre joue le grand coq entre guillemets et dit moi je te renierai jamais
urumva yesu aramubwira ati ngiye kuba mu bihe bigoye bagiye kumbamba ku musaraba yesu aravuga petro aravuga ati naho bo gutwara je tuzoguma turi kumwe
et jesus lui dit
yesu aramubwira
Tu ne renieras pas trois fois que le coq va chanter. Pierre a vécu ce moment très difficile. Les paroles de Pierre vis-à-vis du Seigneur étaient bien au-delà de son engagement réel avec lui. Et ça, c'est toujours une question que nous devons nous poser. Est-ce que les paroles que tu dis au Seigneur, c'est réellement ton cœur? Moi, je peux vous dire une chose. Un jour, j'ai dit, Seigneur, envoie-moi n'importe où sur la terre. Mais je vais rajouter, surtout pas en Afrique. Je pensais qu'on aurait une base aux États-Unis.
Qu'on
serait peut-être en France. Dieu m'a envoyé ici. Vous savez, souvent nous disons des choses. Seigneur, je ferai tout pour toi. Sauf être pasteur. C'est ce que je disais. Parfois on est comme ça. Mais parfois aussi on raconte des choses à Dieu. Oui, Seigneur, je t'aime. Je te servirai, Seigneur. Et le premier inconverti ou la première inconvertie qui arrive, je me marie avec lui. Oui, Seigneur, je t'aime. Mais Seigneur, pitié un peu dans la caisse, c'est pas trop grave, tu me pardonneras quand même. Quel type d'engagement c'est? Oui, Seigneur, je t'aime. Mais bon, dire la vérité, ça me coûte, Seigneur. Vous savez, c'est important de marcher avec Dieu d'une manière digne de Dieu. Des erreurs, on peut en faire. Et là, ici, Pierre avait fait une sacrée erreur, une sacrée gaffe. Moi, je
ne
te renierai jamais, Seigneur. Et il a renié. Et Jésus ici le voit. C'est la troisième fois. Jésus lui a pas sauté dessus tout de suite en lui disant Pierre, hein, tu te rappelles, tu m'as un peu renié. Maintenant tu vois, je suis ressuscité, donc tu m'as renié, Pierre.
Jésus n'a pas mis la main sur Pierre.
Vous savez, le Seigneur, quand il nous parle et qu'il veut nous reprendre, c'est doux, mais c'est ferme aussi. Vous savez, l'amour, c'est pas « Oh, c'est pas grave, mon petit. » Tu peux recommencer, c'est pas grave.
Je t'aime.
Ça, c'est pas l'amour. C'est la stupidité, ça. Et c'est avoir une vision de l'amour qui est fausse. Dieu nous corrige, amen. Et là, ici, Pierre s'est fait corriger. Jésus lui dit, m'aimes-tu? Et dans ce verbe aimer,
vous savez,
en grec, il y a plusieurs mots pour aimer. Il y a un mot qui veut dire l'amour divin. Et là, Jésus dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes de l'amour de Dieu, l'amour désintéressé? Pierre, il a réfléchi là. Et Jésus a rajouté, est-ce que tu m'aimes d'un amour divin, désintéressé, engagé? Plus que les autres là qui sont là. Tu te souviens de ce que t'avais dit juste au moment où j'avais dit que vous passerez par des épreuves difficiles, que je serai une occasion de chute pour vous? Et Pierre, là, il allait tenir sa langue. Parce que Pierre répond d'une certaine façon. Il dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et là Pierre utilise un autre verbe grec qui ne reprend pas le même verbe.
Hano rero Petero ijambo yishuye mu gukoresha ugo ijambo ngo gukunda yakoresheje irindi jambo ry'ikigiriki.
Jésus lui dit,
Yes amubwira,
Pierre, est-ce que tu m'aimes d'un amour divin? C'est agapeo en grec.
Ati mbega Petero urankunda urukundo ruva ku Mana mu kigiriki ni agapeo, urankunda agapeo.
Plus que les autres.
Kurusha abandi.
Et Pierre répond,
Hanyuma Petero arishura,
Seigneur,
ati mwa,
tu sais que je t'aime bien, Phileo, je t'aime comme un ami.
Aturazi ko ndagukunda nk'umugenzi Phileo mu kigiriki.
C'est comme ça que Pierre lui répond.
Uko niko Petero yishuye.
Parce que si Pierre lui avait répondu,
Seigneur,
tu sais que je t'aime d'un amour agapeo, un amour divin.
Jésus
aurait certainement continué la conversation d'une autre façon.
Vous
savez, parfois, quand le Seigneur nous parle,
il ne nous dit
pas certaines choses, mais on sait qu'il veut dire ça.
Je ne
sais pas s'il a fait un tour par le Burundi, parce qu'il paraît qu'il faut interpréter la langue au Burundi. Hein, quand quelqu'un vous parle, il faut toujours réfléchir sur qu'est-ce qu'il a vraiment voulu dire derrière.
Et
Jésus, la deuxième fois,
lui
dit encore, Pierre,
est-ce
que tu m'aimes d'un amour divin?
Un
amour désintéressé, un amour qui s'engagera jusqu'au
bout.
Sous-entendu, est-ce que tu as compris la leçon de la dernière fois?
Et alors,
il lui dit, Seigneur,
tu
sais que je t'aime bien.
Tu sais les gaffes
que j'ai faites. Tu le sais bien, Seigneur, j'ai pas besoin de te faire un dessin et d'écrire un livre.
Et
Jésus lui demande cette deuxième fois.
Donc.
Et une troisième fois. Mais là, Jésus réutilise le verbe que Pierre a utilisé.
Et
lui dit, Pierre,
est-ce
que tu m'aimes bien comme un ami? Pierre était attristé. Là, il s'est dit, il fait chaud aujourd'hui. Ça devait être intense. Le regard de Jésus plein d'amour devait couler avec ses yeux sur Pierre, vous savez, et descendre comme ça. Et Pierre savait que là,
il ne
pouvait pas faire à la burundaise.
Hein.
C'était direct là.
Il n'y avait
pas besoin d'interprétation des langues.
Le
cœur était touché au fond.
Pierre
ne pouvait pas s'échapper quelque part. Et il a dit oui, Seigneur.
Tu
sais que je t'aime. Que je t'aime bien, Seigneur. Et c'est là où Jésus va lui dire une chose. Là,
Pierre,
ce que tu dis, c'est ce que tu es.
Ce
que tu dis vraiment, c'est ce que tu es maintenant.
Tu m'aimes
comme un ami. Et tu vas voir. Un jour,
il
y a quelqu'un qui te mettra à mort. Tu es prêt là à aller jusqu'à la mort. Avant la croix, avant que je meure à la croix, les déclarations que tu as faites, c'était quelque chose qui dépassait complètement ton cœur. Mais maintenant, réellement tu as compris que ton engagement avec moi, par rapport à ce que tu dis, ça va 100% ensemble. Et c'est ça que Pierre avait commencé à comprendre. À ce moment-là, il a commencé à réellement comprendre
que
ce qu'il devait être, son engagement, devait correspondre à ses paroles avec Dieu.
D'être
un vrai disciple. Et là, il était prêt à aller à la mort pour le Seigneur. Pierre a été crucifié à l'envers. Quand il avait plus de 60 ans. Donc plus de 30 ans plus tard, cette expérience avec Jésus.
Et
là, il a accepté d'aller à la mort pour son maître.
Et
c'est cette expérience qui a été une expérience unique dans la vie de Pierre.
Vis-à-vis
de son engagement. Levez-vous, on va prier un moment.